Et bonsoir chers amis sportifs, bienvenue à l'antenne de Radio Albigès pour Automax Sport du 13 novembre 2018. Aujourd'hui au sommaire, nous reviendrons sur la défaite inter-alsacienne à Vandenheim des féminines de la SPT Football Albigeois pour le compte de la 11e journée de Division 2. Les Rouges et Jaunes, en perdant 1-0 dans les dernières minutes, loupent le coche d'une bonne opération comptable qui lui tendait les bras malheureusement, et la belle série de 5 matchs en défaite s'arrête donc là, dans la périphérie de Strasbourg. En foot toujours, avec Nicolas Portillo de Footpi, nous reviendrons sur l'actualité footballistique du week-end inter-tarnaise avec entre autres l'US Albi et les clubs castrés. Mais nous parlerons aussi des gazelles carmosines en basket qui ont elles aussi subi un léger coup d'arrêt en National 2 à Limoges, équipe avec qui elles partageaient le leadership du championnat. Mais avant tout cela, on va vous parler du rugby des champs, du rugby des villes, en clair de la Fédérale 1, avec ce samedi une affiche qui se déroulait au stadium municipal, la réception par le SCA du leader Saint-Jean-de-Luz Olympique Pays Basque. Mais pour ce match opposant les favoristes poules, le Sporting a eu affaire à des Basques tout aussi surprenants qu'étincelants, qui depuis le début de la saison caracolé en tête, et on ne fut pas déçu du spectacle, car même si le match ne fut certes pas un sommet technique, dirons-nous, il fut une belle bataille avec de la générosité, de l'intensité et surtout de la solidarité. Samedi au Stadium, les jaunes et noirs se sont imposés 32-13 en mode.
Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.
Eh oui, les copains d'abord, ça compte ça au rugby, car oui, cette victoire nette mais arrachée dans la cohésion collective et la foi en son destin peut être née un groupe de copains. Oui, car on dit le mot copain, c'est pas un mot galvaudé dans le rugby. Un groupe de poteaux qui, sur l'humiliation d'anglais, se sont peut-être dit les choses en face, du style on n'est pas venu ici à Albi pour se faire manger par des amateurs inter du Pays Basque comme ceux d'anglais, où on n'est pas au niveau de nos ambitions entre autres, ou encore on s'est peut-être vu trop vite arriver ou trop beau. Et bien, sûrement que les messages, et ça on n'est pas dans les secrets vestiaires, les messages que sont transmis les joueurs, le staff et tout l'ensemble, la famille jaune et noire, ont porté leurs fruits, puisque depuis deux matchs à Marmande, Dixit, notre envoyé spécial Didier Revelat, et ce samedi sous nos yeux face au leader lusien, c'est la force collective qui a tout emporté sur son passage, plus que les exploits individuels de l'un ou de l'autre. Le ferment d'une épopée, qui sait, seul l'avenir le dira, car cette force collective est nécessaire pour toute épopée, qui plus est en rugby. Pour le moment, c'est sûrement l'assurance que ce Sporting a du caractère et ne trame plus dans le money time. Car oui, il a fallu de la solidarité aux jaunes et noirs pour venir à bout de Bondy Sambasque, qui, contrairement à leurs annonces initiales et sur nos ondes, n'était pas venu faire du tourisme dans le Tard. Contrairement aux certitudes aussi optimistes de certains supporters qui avaient pronostiqué sur les réseaux sociaux le score du match des 40 à 5, des 50 à 13. Non, non, ça n'a pas été du tout de cet acabit. Non, Albi n'a pas fait de bout en bout.
La balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux.
Oui, ça n'a pas été la balade des enchaînes heureux. Il a fallu qu'ils aillent cela chercher au courage de victoire. Et pour preuve, c'est Saint-Jean-de-Luz qui ouvrit le score sur un essai de Sojus dès la troisième minute. Sur une des rares, on dira, touchée bien exécutée par les Lusiens, aux 5 mètres de la but albigeois, les Lusiens, sur un groupé pénétrant, allaient à dame. Sojus, auteur de l'essai, sortait définitivement, car en allant aplatir, il se blessa à la jambe. Se serait-il accroché à un barbelé de la rugueuse défense albigeoise? C'est une question qui s'est posée à l'issue du match dans les bouillant débat d'après-match à la bodega des joueurs. Saint-Jean-de-Luz perdait donc gros, surtout en touche avec la sortie de Sojus, mais menait quand même 7-0 à la stupeur du peuple jaune et noir. Mais Paul Faré, qui avait déjà franchi quelques fois les rideaux et qui était dans l'avancée à chaque fois qu'il touchait le ballon, allait remettre les deux équipes à pied égalité à la 15e minute. 7 partout. Iturrio avait beau mettre par sa botte les siennes devant au score, donc on passait à 17. On sentait le Sporting par sa puissance collective totalement martelé des Basques qui, au courage, avaient leurs armes, s'accrochaient et essayaient d'envoyer du jeu dès qu'ils trouvaient un espace dans le moindre recoin du pré. Logiquement, Thibaut Bismarck donnait l'ascendant au score par deux coups de botte sur pénalité, 13-10. Mais tout le monde se demandait en tribune comment Saint-Jean de Luz allait tenir en seconde période, tant la débauche d'énergie face à un CA ultra dominateur en conquête, les RNT. Surtout que même les Albigeois avaient pris un carton jaune pour pas changer. Les bonnes habitudes sont revenues au galop par Nabarro sur un tirage de maillot. Mais les Luziens, eux, venaient aussi d'en prendre un carton et juste au terme du premier acte. Alors on se disait que ça allait être compliqué pour eux quand même, parce que de devoir jouer tout le début de la première. De la seconde plutôt, période A14, ça allait piquer, voire couiner dans les organismes. C'est le sens de nos questions qu'on a posées au pilier Abigeois et Benoît Sylvestre, qui ne jouait pas ce samedi, mais qui était bien sûr au soutien de ses coéquipiers. Même s'il n'était pas derrière le terrain, il poussait avec eux.
Sylvestre et moi, je vais essayer de demander toute réaction. Réaction sur cette première mi-temps du Sporting. On sort avec 3 points d'avance. On a fait le job sur cette première mi-temps, mais c'est une vraie joute fédérale, là.
Oui, tout à fait. C'est une équipe très, très accrocheuse qui est venue avec des ambitions. Ça envoie de partout. Et donc, du coup, il faut vraiment continuer à garder le ballon et répondre présent à cette équipe de Saint-Jean de Luz.
Alors, on a vu qu'ils étaient un peu au courage quand même, nos amis de Saint-Jean-de-Luz. Là, ils vont être à 14 contre 15. T'as pas peur que pour eux, tant mieux pour nous, qu'ils craquent en début de seconde période, hein?
Mais j'espère, c'est le but. Il faut absolument gagner ce match pour prendre la première place. Donc, j'espère qu'en mettant du rythme et en gardant les ballons, on va pouvoir faire craquer cette équipe de Saint-Jean.
En clair, l'ex-pilier Tarbé, lui, il attendait qu'une chose, que les siens et ses coéquipiers éparpillent un puzzle les visiteurs.
Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts, façon puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite, je disperse, je ventile.
Eh bien, c'est ce que sont évertués de faire les jaunes et noirs à la reprise. Et c'est fort d'une certaine sérénité, voire de certitude, que la chambrée, même plus nombreuse et bruyante du stadium, voyait la seconde période débuter. Mais l'esprit de résilience basque fit encore ses preuves. Black Boulet par une touche impériale samedi, avec un Mathieu André des grands soirs. Sur le reculoir en mêlée, les joueurs d'Éric Balader serrèrent les dents et venaient voir les vagues jaunes et noires s'écraser contre leur vaillante défense, un peu aidée, on va dire, par un arbitre compensant un brin, comme on dit souvent dans le jargon. Il faisait un peu de social entre les amateurs et les professionnels. Mais la paire de centre Nabarro-Wassinibu, mis dans le sens par un magnifique lancement de jeu du 10 albigeois Jérémy Russell, qui est monté en puissance tout au long du match, qui a fait sa partie, partait Adam et prenait la défense basque en contre au cœur du jeu. Nabarro faisait la différence bien sûr avec son compère sur leur camp de feu et n'avait plus qu'à aplatir entre les perches. Jérémy Russell reprenait le but et passait bien sûr la transformation 20-10 pour les jaunes et noirs. Le trou était fait, mais les albigeois a dû s'employer ferme, comme nous le concéda Mathieu André à l'issue du match.
Et après, c'est faute de main en zone critique ou en zone de marque. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Je pense que c'est notre point faible depuis le début de la saison. C'est quand on arrive dans cette zone de marque où il faut augmenter le curseur de la concentration, et bien, nous, on est fébrile et on fait des fautes de main, on tombe des ballons. Ouais, la touche est plutôt performante depuis le début de la saison. Ça nous permet de gagner des matchs, de récupérer beaucoup d'armes, beaucoup de munitions. Donc ça, c'est bien. C'est un secteur qu'on travaille beaucoup. Il faut continuer comme ça, mais à noter aussi. Aujourd'hui, la mêlée a été très bonne. Et après, c'est toujours pareil. Dans le rugby, quand on a une grosse conquête, c'est plus facile pour gagner un match. Oui, je pense qu'on va être bien reçu à Lavaur. Après, premier aujourd'hui, c'est anecdotique. Il faudra l'être à la fin de la phase régulière. Le prochain match à Lavaur, ben oui, match très compliqué à jouer, mais ça va être aussi un très bon test pour nous dans une ambiance. Je pense que ça va être chaud bouillant, donc on va voir un peu ce qu'on vaut et on va laisser tester à Lavaur.
Mathieu, c'est de ces victoires qui resserrent les liens d'un groupe. Et vous êtes allé au bout du bout arracher ce point de bonus, ça va faire du bien pour la cohésion d'équipe.
Ouais, ça, on engrange de la confiance et c'est surtout qu'on prend plus de plaisir qu'on l'a pris ces dernières semaines avec certains matchs qu'on faisait. Donc ça fait du bien à la tête, ça fait du poids au comptable que du positif ce soir.
Et puis les adversaires, vous leur dites Albi is back, on a fait un gros match, on a détrôné le leader. Ça parle aussi d'un microcosme de la Fédérale 1, dans les autres poules, on a toujours un œil sur Albi qui fait partie des favoris avec Rouen, Roval, entre autres.
Ouais, c'est sûr, mais après, bon, je pense que ça c'est toujours pareil, c'est anecdotique. Ce qui est important, c'est qu'on a rentré de la confiance, qu'on sache de quoi on est capable. Et puis surtout, le plus important et le plus compliqué aussi, c'est de réitérer ses performances tout au long de la saison.
Un petit mot sur les adversaires, c'est Basque de Saint-Jean-de-Luz, un peu comme ceux d'Anglette. Comme je disais après avec tes coéquipiers, ils n'ont pas laissé leur part aux chiens. Ils sont venus un peu en calimero. Et le coach avait dit oui, nous on vient pour pas prendre 70 points. Enfin, une fois sur le pré, ils se sont donnés corps et âme.
Oui, ouais, c'est sûr. Des mecs très vaillants, très costauds et qui ont résisté pendant un long moment. Malgré notre domination sur les phases de conquête et dans les impacts physiques, ils ont tenu bon très très longtemps. Heureusement qu'on est resté concentré toute la partie pour remporter ce match.
Vous n'avez pas eu peur vers la 60e de sombrer un peu dans le doute quand on est resté à 23 pendant longtemps, de commencer à douter, à bafouer le rugby, surtout qu'il y a eu un carton, ça aurait pu être le tournant?
Non, justement, ça a été notre force de rester concentré, de ne pas douter d'un pet et justement d'accélérer et de les faire plier, quoi.
Bon, eh bien, merci Mathieu, et en plus vous êtes sorti sous les ovations d'un public retrouvé, ça va faire du bien au moral aussi.
Ouais, c'est sûr, ça fait très plaisir. Ça fait très plaisir, en plus avec ses performances, ça va faire encore revenir des gens au stade, et ça c'est très important. Merci.
Oui, le public a été très important, hein, puisqu'il a poussé. Il n'y avait pas une énorme chambrée, mais on était peut-être 1500, et c'est déjà un peu mieux que les derniers matchs, et ça monte petit à petit, la jauge du stadion. Et puis, il y avait de l'engouement, on a entendu des chants monter, ça a poussé, surtout à partir de 70e minute, quand on voyait que le Sporting était toujours qu'à 20-13, et que ces maudits Basques, même si on les aime bien, s'accrochaient et ferraillaient ferme. Mais à la 75e, alors que Thomas Lassel tentait de capter beaucoup de pieds à suivre, et encore de Jérémy Russell, et pour aller aplatir en terre promise, le supersonique Eliel Bigeois se faisait plaquer en l'air et repousser en touche. Sanction directe ce coup-ci, et pas comme Anglette, et l'arbitre avait acheté des lunettes samedi. Carton jaune et essai de pénalité. 27-13 pour le CA, la messe était quasiment dite pour le SJLO Pays Basque. Et le Sporting, en supériorité numérique, toujours dans l'avancée, sentait qu'ils pouvaient, par leur force collective et leur niaque, aller se chercher un bonus offensif qui donnerait de l'ampleur à une prestation sans être d'un haut niveau technique non plus, comme on le disait tout à l'heure, fut d'une grande intensité et où Albi a remporté haut la main le combat proposé. Romain Casals, à l'issue de la rencontre, n'en disait pas moins avec Vincent Clément, notre consultant de choc, qui rebondissait à son propos pour nous faire une analyse de cette fin de match où Albi a posé à l'instar de ses adversaires les tripes sur la table.
Bon, allez, Romain, t'es rentré en seconde mi-temps, et c'était une belle partie de manivelle. C'était un des chocs de cette journée de Fédéral 1. On a vu que Saint-Jean-de-Luz, même s'ils sont amateurs, ils n'ont pas laissé leur part aux chiens, et ça a été un vrai match d'homme.
Ouais, je tiens à les féliciter, franchement, parce que c'est vraiment une grosse équipe. En première mi-temps, on a été surpris par l'engagement qu'ils ont mis, parce que bon, on fait quand même une grosse première mi-temps, hein, tout de même si on est beaucoup pénalisé. En conquête, on est très fort, on les domine là-dessus, sur les impacts aussi, mais ils n'ont pas bougé, quoi. Et puis bon, après, ça a un peu lâché physiquement. En seconde mi-temps, on a réussi à aller chercher le point de bonus offensif. Mais bon, je tiens quand même à féliciter encore une fois cette équipe qui s'entraîne trois fois par semaine et qui sont seconde de championnat maintenant, et je pense qu'ils vont faire du mal à beaucoup d'équipes.
Alors le Sporting maintenant est premier du classement, ce point de bonus est arraché dans les dernières secondes. Ça, c'est un supplément d'âme aussi du groupe et du SCA qui montre que jusqu'au bout vous avez été en capacité d'aller arracher ce point de bonus, et puis vous remettez un peu les points sur les i, les barres sur les t dans le petit microcosme de la Fédérale.
Ouais, parce que bon, on sait que c'est un championnat très compliqué, hein, il faut pas se le cacher non plus. Après bon, c'est vrai que nous on se doit de montrer tous les week-ends, parce que quand même on est professionnel, on s'entraîne tous les jours, et bon, c'est vrai que le supplément d'âme a fait plaisir, parce qu'on montre quand même qu'on est vraiment une bande de copains à aller chercher ce point de bonus offensif avec le petit Dorian qui est rentré les 5 dernières minutes, il se le pèle, donc c'est très satisfaisant.
Et puis un stade qui a commencé un peu à vibrer, même si c'est pas encore les grandes chambrées, mais à l'unisson, à la fin qui poussait, ça fait du bien ça aussi de sentir l'adhésion populaire.
Ouais, c'est vrai que quand même aujourd'hui on a vu un gros public, même si c'est vrai chaque fois ils sont là, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, face à une grosse équipe de Saint-Jean-de-Luz, ils nous ont beaucoup apporté aujourd'hui.
Et merci Romain, et à bientôt pour de nouvelles aventures.
Allez, merci beaucoup.
Voilà pour les premières réactions. On va essayer.
Ouais, c'était sympa cette réaction, Loïc.
Ah,
je trouvais Romain très très humble.
Ah, mais il est plein de sincérité, Romain.
Et très lucide. Voilà, il dit qu'il a été surpris par les joueurs de Saint-Jean-de-Luz, comme nous aussi de là-haut on l'a été. cette qualité de jeu, cette qualité de passe, ses intentions. C'est surprenant, quoi. Et puis ce fait qu'il s'accroche, quoi. Parce que c'est, il a bien dit, hein, ils ont fait une belle partie, les Albigeois. Ils ont été présents dans l'intensité, ils ont mis les ingrédients qu'il fallait. Ils avaient tous les ballons en conquête. Et ça n'a pas lâché en face. Ça n'a pas lâché, alors que ça a lâché dans les derniers. En première mi-temps, à la mi-temps, on disait avec Didier que ça allait lâcher en deuxième mi-temps. Mais en toute fin de deuxième mi-temps, quoi. Hein, ça a pris du temps. Et bravo aux Albigeois de ne pas avoir. Relâcher leurs efforts parce que ça a payé au final et bravo à cette équipe de Saint-Jean-de-Luz qui a montré de très très belles choses.
Alors comme vous avez pu l'entendre et le comprendre avec cette interview de Romain Casals qui était suivi de Vincent Clément, notre consultant de choc qui rebondissait sur les propos de Romain Casals qui nous faisait une analyse de ce match, les jaunes et noirs ont bien sûr fait exulter le stadium en toute fin de match en allant inscrire au bout du temps cet essai de bonus qui donne de l'épaisseur à cette victoire. Une victoire qui remet en selle le Sporting pour jouer les beaux rôles de cette fédérale. Un essai de bonus inscrit par le jeune Dorian Hermé. La belle histoire. Gourmand un peu sur le coup, le petit Dorian est saisi par la folie de la jeunesse. Parce que, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça, parce qu'il la joue un peu solo en bout de ligne pour délivrer le stadium de ce bonus tant chéri par le public et les joueurs, alors qu'il pouvait jouer un 2 contre 1 avec son poteau Thomas Lasselle. Mais bon, on n'y en voudra pas, il est allé à Dame. Ah là là, ces jeunes, ils sont un brin culotté. Écoutons par contre un des vieux briscards, un des cadres du vestiaire, ne pas bouder sa joie à l'issue de ce match qui a tenu ses promesses.
J'ai ton grand copain Vincent, Thibaut Wismann. Bon allez, Thibaut, on entendait dans Albi les gens qui se plaignaient de ce Fédéral 1, qu'il n'y a pas de gros match, qu'il n'y a pas de beaux matchs. Là, on a vu un vrai match de rugby, un match qui a donné de la saveur, qui a donné de l'engouement, et vous éclatez sur le terrain les joueurs.
Ouais, vraiment, on joue rugby pour jouer des matchs comme ça, des matchs un petit peu à pression, où il faut gérer des temps forts et des temps faibles. D'autant plus que les buteurs, et moi personnellement, n'a pas été un réussite. Donc il a fallu qu'on soit solidaire et qu'on aille se les chercher dans le jeu, chose qu'on a faite. Donc je tiens à féliciter les gros aussi pour leur match, notamment sur la touche défensive et le travail effectué en mêlée. Il faut vraiment les féliciter. Je pense qu'aujourd'hui, si on ramène la victoire avec le bonus, ils y sont pour beaucoup. Et ensuite, j'ai adoré l'état d'esprit d'aller se le chercher à la dernière minute comme ça. Ça prouve qu'au final, la cohésion d'équipe prend et on est en train de créer quelque chose, je pense.
En plus, c'est le petit jeune de l'équipe, Dorian Hermé, qui va marquer l'essai. C'est la note sympathique aussi. Ça montre que les portes sont ouvertes à la nouvelle génération Sporting.
Oui, je le félicite, mais je sais qu'en phase finale, un 2 contre 1 comme ça passera pas. Donc tant mieux qu'il ait marqué, mais j'espère que la prochaine fois, il lâchera le ballon quand même.
T'as raison, Thibaut.
Exact.
Et puis, cette équipe de Saint-Jean-de-Luz, c'est des morts de faim. Hein. Cette première place, il ne voulait pas la lâcher. Il a fallu vraiment vous l'appeler. Là. C'est un match, il ne vous avait pas été donné. C'est pas les pros qui ont marché sur les amateurs. Ça a été un vrai match entre deux têtes d'affiche de la Fédérale 1.
Oui, et puis en plus le président a fait un peu de zèle en disant nous, zéro pression, de toute façon on sait qu'on peut en prendre 40, etc. Bon, la sortie, ils sont pas premiers pour rien, il le sait très bien. Maintenant, on s'attendait vraiment à une grosse équipe. Je pense qu'en plus, ça a l'air d'être une bande de copains qui vit ensemble et travaille ensemble depuis un bon moment. Ça se voit, de toute façon, ils sont hyper solidaires. Et c'est dangereux, les équipes comme ça qui jouent au rugby sans pression et qui au final se connaissent très bien en plus. Donc non, franchement, c'est une belle performance ce soir. Et du coup, ça fait vraiment plaisir, quoi. Je pense qu'on va savourer la victoire maintenant. Moi, j'aime bien me projeter directement par la suite parce qu'il reste encore du chemin. Il y a un match à l'avoir qui sont champions de France Jean Prat, donc qui risque d'être aussi compliqué que ce soir.
Et puis ça fait 30 ans qu'ils nous attendaient à l'avoir et le derby Tarnot-Tarnet, ça va faire couler de l'encre, on va dire.
Voilà, donc là, par contre, je nous attends avec beaucoup plus de discipline parce qu'on a encore pris un carton jaune, du coup, ça a été compliqué. Et j'espère qu'on fera encore un match aussi abouti qu'à Marmande ce soir.
Et oui. On espère tous que ce match contre l'Avoir sera de haute volée et fera honneur au rugby départemental. Donc après avoir écouté le demi de mêlée albigeois, écoutons aussi Vincent Clément et son ancien mentor en tant que coach intérimaire en 2016-2017 nous parler de la prestation de son ami Thibaut Wismann.
Pour parler de lui, il a été solide ce soir, hein. Il a animé le jeu, puis il a été très costaud en défense. Il a bien mis en évidence la performance des avants et le fait qu'ils aient monopolisé la conquête. Je pense que c'est les ingrédients sur lesquels le succès albigeois a été construit ce soir. On a vu des choses intéressantes, un peu du déchet aussi, comme Didier l'a précisé, mais c'était un problème de profondeur pour moi. On était un petit peu trop à plat parfois par rapport à la montée très agressive des joueurs de Saint-Jean-de-Luz. Mm-hmm. Et
Et non, je pense que voilà, c'est une prestation aboutie et qu'ils sont sur une dynamique. Ils avaient renversé la vapeur après Anglet à Marmande en étant très concentrés, très impliqués. Et puis, on sent qu'il y a une tendance qui commence à prendre forme du côté albigeois. On espère que ça va se confirmer de match en match et que tu disais que les choses avaient été remises dans le bon sens. Ben, on espère que cette tendance-là va continuer.
Et que dire après les analyses de notre consultant Vincent Clément ? Eh bien, on peut dire qu'Albi a frappé un grand coup, voire un très grand coup, hein, surtout face à cette fière équipe basque qui a tout donné et fait honneur à son maillot. Et bien sûr, dire aussi qu'Albi a peut-être su trouver cette cohésion, ce supplément d'âme, cette grinta, qui lui aurait peut-être permis de renverser bien la situation l'an dernier en demi-finale retour contre Rouen, face à Bourg ou face à Aix au Stadium. Vous savez, là je vous parle un peu de ce coup de boost collectif qui me permet de faire basculer une saison de bonne à exceptionnelle. Samedi soir, le Sporting l'avait et espérons-le, cet état d'esprit sera cultivé par les jaunes et noirs. Écoutons celui qui pouvait être fier à ses gars, le timonier Arnaud Mella.
C'était le leader, ils étaient vaincus, donc on se doutait bien que ça n'allait pas passer du premier coup de pinceau. C'est un bon match, c'était pas facile. Hein. C'est une très bonne équipe qui est très généreuse, qui se déplace beaucoup, donc il est difficile de trouver des espaces libres. Hein. Et après, le peu de fois qu'on a réussi à briquer, on n'a pas été patient pour tenir le ballon le coup d'après. Quoi. Donc voilà, le point positif, c'est qu'à 10-12 minutes de la fin, on était à, je crois, 13-16 ou 13-19, quelque chose comme ça. Et on a été chercher un bonus avec un peu la générosité de l'apport du banc aussi, qui nous a fait beaucoup de bien. Et puis le soutien du public, vraiment, qui a été important quand même sur ce match. Mais après, c'est un match, je pense que dans des matchs comme ça, le groupe se crée et avoir la joie des joueurs, on sent qu'ils ont franchi un petit palier. Là. Comme ça, qui vient sans pression, qui avait fait un peu tourner avec une équipe qui était là pour se viander, quoi, on l'a bien vu. Au début, ils ont plaqué, ils plongeaient dans tous les sens. De les laisser marquer, et bien après, quand tu y crois au rugby, le rugby c'est souvent la tête, hein, et quand tu y crois, bien, c'est plus difficile. Donc on n'a pas réussi à aller à prendre le score et après on a eu du mal, il a fallu travailler très dur et c'est bien parce qu'ils ont été se chercher un peu mais dans la durée, ce qui n'avait pas été le cas jusqu'à maintenant dans les matchs à la maison puisque ça avait été plutôt, on avait pris le score plutôt assez vite, donc c'est une configuration différente mais voilà, le résultat il est là, il y a un point de bonus offensif et c'est vraiment le point positif du match. Quoi.
Vous êtes premier, vous allez fêter ça là-bas la semaine prochaine.
Et on est premier aujourd'hui et on verra demain hein, parce qu'il faut savourer parce qu'ils travaillent très dur et le rugby c'est comme ça, il faut savoir fêter les victoires mais il faut aussi dès lundi se remettre au travail parce que les voisins je pense qu'ils doivent avoir coché ce match depuis 4 mois et ça va pas être simple.
Merci.
Et
justement, qu'est-ce qu'on en pense Sébastien
Vorelli ? Beaucoup de respect, il y a beaucoup d'anciens albigeois, de proches ou de plus loin mais... On sait très bien qu'ils vont être dans le même état d'esprit qu'Anglet, une équipe très accrocheuse et très généreuse. Donc il va falloir. Puis ils jouent bien aussi. Ils jouent bien au rugby. C'est une équipe qui est capable de tenir le ballon. Ils ont une bonne conquête. C'est une équipe complète. Hein. Ils ont fait des phases finales les années précédentes. C'est pas par hasard.
On avait vu dans la presse le président de Saint-Jean-de-Luz et le coach de Saint-Jean-de-Luz faire un peu les Calimero en disant « Nous, on est les petits, on vient pour pas en prendre 70 ». Quand on les a vus sur le prix, c'était des morts de faim. Ils ont fait un brin d'intox parce que c'est vraiment pas une équipe qui est venue en faire valoir.
Oui, c'est ça. Ils ont fait un peu d'intox. Mais après, de se mettre dans la peau du petit, c'est toujours, quand tu es leader, c'est toujours la bonne solution pour son groupe. Hein. Donc, je sais très bien qu'ils ont déjà coché le match retour. Ils avaient bien préparé le match parce qu'ils nous ont quand même posé beaucoup de problèmes. Après, voilà, nous, je pense que si on avait réussi après chaque break qu'on a eu, si on avait réussi à garder un peu de patience, on aurait pu peut-être scorer différemment. Voilà, on s'est mis un peu sous pression, on a eu du mal à laisser parler au score. Quoi. On est resté proche au score. Et ça, c'est le mental, c'est difficile à gérer. Quoi.
Alors Vincent Clément, notre consultant, on se demandait si ce supplément d'âme qu'avaient ces équipes amateurs et que vous rencontrez, je pense à Anglet, je pense à Bagnères qui était venu aussi amener des défis au stade, mais bien sûr à Saint-Jean-de-Luz, est-ce qu'il n'y a pas que ces équipes amateurs, elles ont, on va dire, cette identité de club qui est au-dessus de tout, qui est intangible, qui donne l'impression d'être dans une vraie fratrie, et peut-être que dans le rugby professionnel, ça s'est un peu dilué ça.
Oui, mais ça, c'est pas comparable. On ne peut pas comparer un groupe comme Saint-Jean-de-Luz ou comme Nafarois ou avec le nôtre. Nous, on a des joueurs qui viennent de toute la France, on a des étrangers. Eux, ils ont des joueurs qui se connaissent depuis le CP. Quoi. Donc, alors Saint-Jean-de-Luz, c'est des jeunes qui sortent de Bayonne ou de Biarritz. Donc, ils ne s'y aimaient pas trop, mais ils sont devenus copains. Hein, et ils se connaissent depuis tout gosse. Quoi. Donc ça, tu peux pas comparer ces équipes-là par rapport à notre équipe à nous. Quoi, voilà.
En parlant de force collective, c'est quand même la belle image du Sporting. Et c'est la cohésion qui a permis d'aller chercher cet essai de bonus à la fin. C'est une cohésion qui aura besoin dans les grandes joutes si on va loin. C'est ça qui permet de faire, des fois, le détail qui permet de faire basculer le match.
Ouais, c'est ça. De faire des matchs faciles à 65 points à la maison ou 50 points à la maison, on n'en tire pas grand-chose, hormis le côté l'ego du joueur qui a marqué ses 3 essais. Mais les victoires comme ça, mais quand il faut aller chercher un peu avec le groupe et avec l'énergie... Et ça, c'est le vrai rugby, ça. Et dans les matchs cruciaux, il faudra s'appuyer sur ça.
Et le coup tactique avec Navarro et Wassinibu, ça a engendré de mettre Gaëtan Bertrand et le vice-capitaine sur le banc, mais ça a été payant. On le voit sur le troisième essai, vous les prenez au centre du jeu avec deux centres, on va dire, coureurs et des gazelles. C'est un coup tactique qui a été payant, ça.
Ouais, disons que Gaëtan, il était carton le week-end dernier. Et donc on avait fait le choix de faire Doux et Moni au centre. Ils nous ont fait un gros match le week-end dernier. Et donc il était normal qu'ils ranquillent ce week-end. Et voilà, c'est deux joueurs costauds qui vont vite, deux Fidjiens, donc ils s'entendent bien aussi. Donc ça c'est important hein, quand tu as envie de jouer avec ton copain. Et ça s'est retrouvé cette cohésion donc, pour Gaëtan. Mais il faut qu'il continue à bosser. Et puis voilà quoi. La concurrence, ça fait devenir bon.
Hein. Dernière question, dimanche prochain, de nouveau un match gala, un derby Tarno-Tarné. Ça va être la fête du rugby dans le département. Et puis à la voir, ça fait 50 ans qu'ils attendent ça. On va être attendu de pied ferme de nouveau.
Ouais, je pense que ça va être particulier. Ça va être un match particulier. Ça va être un match sous tension un peu. Il va falloir qu'à nouveau qu'on montre du caractère. Et sûrement qu'il va falloir qu'on se... Ah, ça va être une petite guerre de tranchées, je pense. Hein. Donc ça va être un gros match dans l'état d'esprit et on va voir où notre groupe en est.
Avec la première place, on dort mieux.
J'espère. J'ai pas essayé encore cette année.
Merci Arnaud.
Allez, merci à vous.
Et un coach ravi de la prestation des siens, même s'il n'est pas dupe et qui sait qu'il y a des petits ajustements à faire et tout au long de la saison pour arriver et monter en puissance en quart de finale. Maintenant, comme vous l'avez entendu, certes, Arnaud Mella se fera moins de soucis et dormira plus serein avec la première place dans la poche pour le moment, mais surtout, il va pouvoir préparer avec ses ouailles le regard tourné vers l'avant, le bouillant derby contre Lavaur. Et oui, parce que dès à présent, maintenant, on va tous avoir les yeux tournés, on va tous vivre au rythme ce derby Tarno-Tarné qui va et doit être une fête du grand monde du rugby local. Le Tarnais, terre de rugby par excellence, va avoir droit, espérons-le, à un match de haute volée. Car malgré qu'ils auront fait le primeur avec les châtelaines de la SASP du Sporting, les supporters et comités d'animation seront même eux là sur le pied de guerre dimanche 18 novembre, car ils viendront au soutien dès l'heure dans ce derby caliente, en bus et même avec plusieurs bus, et si la dynamique se met en place. Alors pour ceux qui veulent les rejoindre, n'hésitez pas à les contacter sur internet et les réseaux sociaux ou auprès de Reynald Brunet dans l'enceinte du stadium, et vous n'aurez pas de mal à le trouver. Allez, venez nombreux et assistez à cette grande fête du rugby Tarnais. Allez, pour continuer dans le rugby tarnais, on va parler de nos amis vaurains que le Sporting Club Albigeois va affronter dimanche prochain en direct sur nos ondes. Donc l'ASV Lavaur se déplacer à Anglet. Alors Anglet, ça vous parle puisque c'est là où est tombé à la surprise générale le Sporting dans un match haut en couleur. Et bien bis repetita pour nos amis vaurains de l'ouest du Tarn puisqu'ils ont perdu 26-13 à Anglet qui reste invaincu dans son antre basque. Le FC Oloron, toujours de la poule bien sûr 2 et du Sporting Club Albigeois, s'est imposé à la maison 33-16 avec assez de facilité contre les petits poussés de l'US Nafarroa qui était pour l'instant sur une bonne série, tandis que le Stade Bagnéret a lui perdu à la maison 15-22 contre l'US Tyros. US Tyros que le Sporting Club Albigeois rencontrera et recevra à domicile juste après le match contre Lavaur et la petite semaine de pause. Le match qui moi m'a fait plaisir parce que j'ai ce petit côté d'aimer le petit poussé, d'aimer préférer toujours David à Goliath. Le cercle amical Lannemezané, la terre d'Arnomella, recevait les ennemis héréditaires du Stadeau Tarbes Pyrénées Rugby. Alors pour la petite histoire, vous le savez tous, c'est le Stadeau et le cercle avaient essayé de fusionner il y a quelques années, ça s'était fini à nom de Boudin, c'est deux clubs qui sont rivaux, et c'est l'équivalent de la rivalité Carmo-Albi ou Albi-Groyer ou Albi-Castres ou Albi-Montauban. À une certaine époque, c'est des derbies haut en couleur, c'est des matchs où chacun se connaît sur le bout des doigts. Et donc, bon, le cercle amical de Lannemezané partait pas favori, même si c'était chez eux, si les matchs se jouaient sur le plateau, puisqu'ils arrivent de Fédéral 2, ils étaient bons derniers de la poule 2 et rencontraient le Stade Tarbes Pyrénées Rugby, un ancien positionnaire de Pro D2, un ancien pensionnaire de Top 14, un ancien pensionnaire de la Fédérale 1 Elite la saison passée et qui va tenter d'accéder à la Pro D2. Donc tout le monde pensait que le Stadeau allait gagner avec peut-être un brin de mal, mais allait gagner. Eh bien non, c'est le cercle amical Lannemezané qui, dans un match haut en couleur, dans un vrai derby avec toute l'intensité comme on a pu avoir au stadium de ces matchs un peu à pression supplémentaire, et bien, le cercle amical Lannemezané s'est imposé 25-20 contre le Stadeau Tarbes Pyrénées Rugby et fait le petit exploit de cette 9e journée de Fédéral 1. Pour finir à la poule 2, l'Avenir Valencien s'est imposé facilement à domicile 31-21 contre l'Union Sportive Armandaise, équipe que va rencontrer le Sporting la semaine passée. En poule 3, vous l'avez tous vu sur la chaîne de l'équipe, et Rovaldrome est allé gagner à Blagnac 20-13 et en train de marquer au fer rouge tous ses concurrents. Narbonne s'est ressaisi en gagnant 43-7 contre Rodez. L'Avenir Cassanéen a chuté à domicile face au rugby club Nîmes-Gard qui reprend des couleurs. Aubenas aussi reprend des couleurs puisque à la maison, à Dugradu, dans leur chaudron de Dugradu, ils se sont imposés 36-9 contre une équipe qui tournait bien, l'US Saint-Sulpicienne. Et Serré, les Catalans de Serré, sont facilement imposés 42-9 contre l'AS Florentine, une équipe qui joue comme le Sporting Club Grouilletois, le maintien Sporting Club Grouilletois, qui était exempt ce week-end. En poule 4, il y a eu pas mal de résultats qui sont intéressants. La défaite de Dijon à Hyères-Carqueiran, 13-8, et une défaite qui met un coup d'arrêt au très brillant début de saison des Dijonais, puisqu'ils étaient invaincus. Et là, maintenant, Dijon rentre, on va dire, un brin dans le rang et voit Bourgoin-Jallieu, qui s'est imposé 21-18 à Rajon contre Grasse, revenir dans les rétros et klaxonner. Surtout que le prochain match opposera Dijon à la maison à Bourgoin. Là, ça va être une des affiches de cette 10e journée de Fédéral 1. Mâcon s'est imposé facilement 30-8 à la maison face à Villeurbanne. Chambéry s'est ressaisi en gagnant 27-10 contre Beaune. Vienne Rugby à la maison s'impose 37-6 contre l'US Seynoise. Et le Stade Niçois, dans un, on va dire, une sorte de derby ou en couleur, s'est imposé 36-23 contre les champions de France de Fédéral 2, l'Avenir Sport TIF de Bédarry de Châteauneuf du Pape. Et pour finir, la poule la plus relevée, la poule, on va dire, de la mort, la poule 1, le Stade Nantais s'était imposé 43-10 samedi contre Suresnes. Dax aussi s'était imposé facilement 52-13 contre Saint-Médard-Angeal qui patine dans la semoule. Et ce dimanche, donc, Langon a été étrié par le Roi Normandie Rugby et d'un ex-Jaune et Noir et Fabien Doré 45-6 qui était titulaire. Le Rennes Étudiant Club arrête sa bonne série puisque Niort est venu gagner à Rennes 22-16 tandis que Trélissac est allé s'imposer à Bergerac 29-19 et Cognac Saint-Jean-d'Angély repasse la marche avant en s'imposant contre le Rugby Club Bassin d'Arcachon 13-5. Donc voilà pour tous les résultats de ce Fédéral 1 qui réserve, on va dire, chaque week-end son petit lot de surprises. Donc les classements en poule 1, Roi Normandie Rugby, Caracol en tête 44 points avec derrière dans les rétros Nantes 33 points, Dax 30 points et après la Meute, Cognac, Trélissac et Niort 29 points. Le trou est fait avec Rennes qui est 7e et qui n'a que 22 points et qui ne verra sûrement pas les phases finales. En queue de peloton, on retrouve Langon avec 8 points. points et Saint-Médard-en-Jal avait 4 points pour qui ça va être très très compliqué le maintien. Dans la poule du Sporting, la poule 2, donc le Sporting est bien sûr maintenant en tête de ce championnat. 38 points, premier devant Saint-Jean-de-Luz, 36 points et le Stade Otarbe, 32 points qui commence à perdre du terrain, à être au-delà d'une victoire bonifiée des Albigeois, ce qui est bon signe, qui permet aux Albigeois d'avoir, on va dire, une petite poire pour la soif. Quatrième, on retrouve Tiros que le Sporting rencontrera très prochainement à égalité avec Anglette. Et sixième, nos amis Voréens de l'ASV Lavaur. En queue de peloton, le cercle amical de Mezané remonte un petit peu puisqu'ils sont derniers mais avec 11 points et commence à avoir à portée de fusil l'US Nafarroa 14 points et le Stade Bagnères 16 points tout comme l'Avenir Valenciennes. Donc le maintien n'est pas encore joué en poule 2. La poule 3, alors cette poule elle est un peu plus alambiquée puisqu'elle est impair, donc il y a des matchs avec des exemptions, donc on n'a pas toutes les équipes au même niveau et puis il y a eu des matchs reportés, donc Rovelle-Drôme en ayant joué que 7 matchs à 35 points, 7 victoires en 7 matchs, c'est les seuls à Rouen à être encore invaincus et donc 5 bonus offensifs sur les 7 victoires, donc un très beau résultat si on fait la péréquation et Rovelle-Drôme est même au-dessus de Rouen hein. Donc Blagnac est second avec 30 points et derrière suit la meute, Nîmes 27, l'US Saint-Sulpicienne 25, Narbonne 24 et Aubenas 22. Donc on va dire la seconde place se jouera entre cette meute assoiffée de Pro D2. Et bien sûr, en queue de peloton, on retrouve Grouillé 8 points, Florence 9 points et Serré Sportif 13 points. Donc pour Grouillé qui va recevoir Serré ce week-end, il y a un impératif de victoire s'ils ne veulent pas s'engluer dans une lutte au maintien qui deviendrait de plus en plus complexe. Et pour finir, la poule 4, la poule de Chambéry, des hommes de Ben Bagat, la poule de Dijon. Donc Dijon toujours premier 38 points devant Bourgoin 37 points, en sachant comme je vous le disais qu'il y a un Dijon-Bourgoin la semaine prochaine. Le Stanisois derrière, loin derrière avec 30 points, puis après on a hier avec 25 points et le Saint-Noise avait 20 points. En queue de peloton, on retrouve Bonne et Grasse 14 et 10 points. Donc voilà pour notre petit tour de Fédéral 1. Et, alors pour finir, on va quand même vous donner un ou deux petits résultats de Fédéral 2 avec nos amis Mazamétain et nos amis Gaillacois. Donc là, en poule 5, Mazamé et Gaillac, qui sont dans la même poule, se déplaçaient à Pamiers pour Mazamé avec une victoire 34 à 29 et Gaillac se déplaçait à Castelsarrasin avec par contre là une défaite 13 à 9. Donc Mazamé est troisième maintenant à l'issue de cette journée avec 30 points, à seulement 3 points et 1 point respectivement de la première et la seconde place, tandis que l'UAG Gaillac de Raph Mérancienne est sixième avec 25 points. Allez, ça n'est fini cette chronique rugby où on a vu que les hommes d'Arnomela avec beaucoup de cœur ont su nous faire vibrer ce samedi au Stadium Municipal. On espère que la levée du week-end prochain sera aussi attrayante. Allez, on retrouvera la Fédérale 1 en direct sur Radio Albigès dès le week-end prochain pour de nouvelles aventures. Après la balle à voile, la balle ronde maintenant, passons au foot et tout d'abord on va commencer avec ces dames, avec les filles de la SPDT Football de l'Albigeois. Allez oui, mais les filles, ça a été compliqué pour elles ce week-end en terre alsacienne. Pour le compte de la 11e journée de Division 2 féminine, la SPT Albi se déplaçait à Vandenheim, 4e avec seulement un petit point d'avance sur la SPT Albi, puisqu'elle disposait de 17 points, les Alsaciennes, tandis que les rouges et jaunes de la SPTT Football de l'Albigeois disposaient de 16 points à égalité avec Ambili. Donc le 5e qui allait chez les 4e, ça donnait un match au tableau qui était très scruté, surtout qu'il y avait pas mal de rencontres entre équipes du haut tableau, ce qui pouvait permettre à la SPT en cas de victoire de faire une belle opération comptable. Et bien malheureusement, à force, on va dire, grévé par les blessures, les suspensions qui vont arriver, en passant entre temps à Manon Caz qui sera suspendu pour le match contre Montauban, l'effectif albigeois n'ayant pas un banc à rallonge, et bien ça a commencé à tirer, à piocher. Peut-être qu'aussi le fait qu'il n'y ait pas eu la possibilité trop de faire tourner sur le match contre Nancy a aussi, on va dire, usé les organismes. Et bien, nos albigeoises ont subi une première défaite depuis 5 matchs. Et, elles pouvaient enchaîner un sixième match sans défaite, puisqu'elles ont été à 4 victoires et un match nul. Et bien, malheureusement, cette série s'est arrêtée en Alsace, s'est arrêtée le 11 novembre à Vandenheim, puisque les albigeoises sont tombées sur une belle équipe de Vandenheim qui avait un collectif bien bien huilé. En première mi-temps, a fait beaucoup tourner le ballon, a envoyé beaucoup de percussions devant, surtout avec une des anciennes albigeoises qui joue à Vandenheim. Il y en a deux anciennes albigeoises, c'est Océane Clossé qui était restée à Albi l'année dernière de août à décembre, la première partie de saison, et qui a été très très remarquée puisque elle a été une des joueuses les plus en vue du match, et sur son côté gauche débordant et mettant un peu le feu dans la défense albigeoise. Une équipe albigeoise qui avait un peu évolué par rapport au dernier match, où lors du dernier match, elles avaient évolué en 3-4-3. Là, c'était un 3-5-2, un nouveau coup tactique mis en place par le duo Garrigue-Gallien pour essayer de compenser, on va dire, les défections sur blessure et ou sur suspension, et pour essayer d'adapter l'effectif qu'il avait à disposition aux forces en présence de Vandenheim. Alors un coup tactique qui a bien marché, parce que même si en première mi-temps les albigeoises ont été certes dominées, ont moins vu le cuir que les alsaciennes, elles étaient bien en place, puisque la défense était très bien en place, composée de Laurie Besom, Manon Caz et Ivy Michaï, tout comme les sentinelles Gina Nani et Norma Cinotti, qui ont fait de nouveau un gros abattage. La problématique s'est plutôt posée dans, on va dire, l'animation du jeu, où Elinski, Delonka, Kirbach, Morales ont eu un brin de mal, on va dire, à se trouver et à concrétiser les contres et les actions albigeoises. Et malheureusement, à l'extérieur, comme c'est le cas, c'est souvent si on n'arrive pas à concrétiser ces actions et ces opportunités qu'il y a à l'extérieur, comme ça avait été le cas à Grenoble, où les filles avaient été tueuses et avaient réussi à faire un mini hold-up, et bien souvent on se fait punir. Et c'est une ancienne albigeoise, l'autre ancienne albigeoise de Vandenheim, Kristina Pantelic, qui est venue punir la SPT Albi à la 83e minute. Elle récupère d'un ballon après un corner un peu mal tiré, on va dire au 4e poteau, comme aurait dit notre ami Hervé Vitas, qui nous a donné pas mal d'infos ce week-end en direct de Vandenheim. Et Kristina Pantelic récupère la balle, s'excentre un peu de la surface, décoche une frappe qui est un peu détournée suivant les versions ou pas, et qui va mourir dans le petit filet d'Olesia Arsenieva, qui voit le ballon malheureusement rentrer dans les cages. Et donc 1-0 pour Vandenheim, malgré une ultime occasion de Laurie Besom sur corner à la 91e, et aussi une petite occasion de Marjorie Delonka. Les albigeoises ne reviendront pas dans le match, et elles doivent bien sûr voir leurs adversaires du jour et Vandenheim s'éloigner au classement, puisqu'elles ont maintenant 4 points d'avance sur Albi, qui reste 5e ex aequo avec Ambili et Montauban sur cette journée. Donc pour Albi maintenant, il va falloir se ressaisir, parce que deux matchs arrivent très importantissimes. C'est entre autres la réception de Montauban pour un chaud derby dimanche à 14h30 au stade Maurice Rigaud, face à Montauban à égalité de points avec les albigeoises, et puis la réception des leaders déchus de Marseille, puisqu'elles ont perdu contre Izer et sont maintenant secondes de ce championnat. Et donc l'OM va nous recevoir à l'SPT, plutôt l'SPT va aller en bouche du Rhône pour aller essayer d'affronter ce qui se fait actuellement de mieux avec Izer dans cette D2 féminine, même s'il ne faut pas non plus oublier Saint-Etienne, qui a une équipe qui tourne bien et qui pratique un très beau jeu. Donc pour les filles de Patrice Garrigue et Clément Gallien, cette semaine ça va être essayer de remettre en selle quelques blessés, de régénérer les corps, et puis de travailler d'arrache-pied pour que ce derby du Tarn et du Tarn-et-Garonne se termine en apothéose, et que les filles du président Espier repartent de l'avant dans cette D2 qui est assez surprenante et où toutes les équipes peuvent battre tout le monde. Allez, maintenant on va passer au foot masculin, on va passer à la chronique Footpi.
Salut, bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle chronique Footpi. Au programme, les bons résultats tarnés, le petit changement d'affiche pour le week-end prochain, et surtout la Coupe de France féminine. Parlons tout d'abord d'une bonne nouvelle pour le FC Vignoble. L'équipe pensionnaire de D1 Poule A a réussi à glaner sa première victoire de la saison. Ce week-end, ils l'ont en effet emporté à domicile 4-1 contre le Castelnau de Lévis. Avec ce succès, les Violets quittent leur place de lanterne rouge et gagnent 2 places au classement, étant maintenant 6e. Les U19 de Castres, du Castres US, font également une prestation intéressante avec un match nul 1 partout à Cahors, 3e au classement. Cette victoire permet aux Tarnais de garder leur fauteuil de leader. Après 6 rencontres, les Castrés sont toujours invaincus en championnat et comptent 14 points. Parlons également des U19 de l'US Albi cette fois. C'était le match à voir. L'US Albi recevait le FC Blagnac. Les Tarnais ont su venir à bout de leurs adversaires dans un match d'anthologie. Le score final est de 4-3 pour les locaux. Ce succès permet aux jeunes albigeois de se donner un peu d'air et de remonter à la 8e place au classement. Place maintenant à notre petite parenthèse Coupe de France. Si chez les hommes, les clubs Tarnais n'ont pas été les plus brillants cette saison, en féminine, l'US Albi fait de la résistance. Après leur victoire en finale régionale, les filles recevront l'AC Avignonnais le dimanche 25 novembre au stade La Grèze. C'est également l'occasion pour la SPTT Albi de faire son entrée dans cette compétition, au niveau du 5e tour, nous en sommes là. C'est les féminines signeront leur entrée dans la compétition du coup en se déplaçant chez un pensionnaire de Régional 1, la S Latois. Souhaitons à ces deux formations albigeoises de continuer à passer les tours pour pourquoi pas un petit derby tarné, ça pourrait être quand même assez sympa, je pense. Nous allons maintenant parler du week-end à venir. Je pense que vous avez un peu suivi l'actualité. Il y a le mouvement du 17 novembre qui se profile et avec beaucoup de manifestations à prévoir. Afin d'éviter des problèmes et des retards de joueurs et d'arbitres sur les terrains, la Ligue et le district ont pris quelques mesures. Ainsi, toutes les rencontres organisées à ce jour, le samedi 17 novembre, seront réorganisées. Prenons par exemple chez les seniors, les clubs doivent s'entendre pour réaliser soit la rencontre la veille le vendredi 16, soit le lendemain le dimanche 18. C'est au club de décider et les deux clubs ont jusqu'à mercredi soir pour s'entendre et communiquer la nouvelle date de la rencontre à la Ligue. Donc espérons que ce dispositif permettra au football de gagner encore du terrain ce week-end et de nous montrer de très belles prestations. On espère également que ça ne fasse pas des trop gros déplacements pour les équipes qui vont peut-être aller jouer dans le Languedoc-Roussillon. Alors, personnellement, pour le week-end à venir, j'ai deux affiches à vous conseiller. En R2, la Poule B nous annonce un superbe Mazamé et l'Union 2. Ce sont deux équipes qui ont 4, enfin, respectivement 2 et 4 points. Deux équipes qui se cherchent encore, qui n'ont pas encore eu leur premier succès. Et cette rencontre peut être très importante pour pourquoi pas lancer une série et réussir à lancer la saison, quoi. Rappelons quand même qu'il n'y a que 2 petits points qui séparent ces deux formations. Parlons encore un peu des filles quand même. Évidemment, le foot féminin est en plein essor et c'est magnifique à voir. C'est une opération rachat pour les féminines de l'US Gaillacois. Il y a un mois, elles avaient en effet perdu 2-1, à domicile contre la Lanterne Rouge, le FC On. Vous l'avez entendu justement dans notre chronique. Le coach de Gaillac était un peu déçu et énervé de cette défaite. Il considérait que son équipe avait quand même gaspillé une très belle cartouche. Donc je pense que ils ont profité de ce mois avec ce groupe pour relancer un peu la machine, pour s'entraîner et pour aguerrir ses filles, et espérons ainsi réaliser une très belle prestation à l'extérieur face à Critourien ce week-end. Voilà, j'espère une nouvelle fois que vous avez pu apprendre un peu plus sur le foot tarnais. N'hésitez pas à vous rendre sur le site footpi.fr. C'était un réflexe, bien sûr. Et la semaine prochaine, je vous donne rendez-vous, même jour, même heure. Allez, ciao.
Merci à Nicolas Portillo pour cet éclairage sur les résultats footballistiques du week-end dans notre département. Allez, maintenant, on va passer au Breaking News. Oui, notre Breaking News sera aujourd'hui en basket féminin avec les Gazelles Carmosines qui recevaient Limoges, leader du championnat de National 2. Alors pour vous faire un topo, les Gazelles Carmosines, tout le monde le sait, c'est cette équipe de basket de Carmo qui est féminine, qui est montée pour la première fois en National 2, le second échelon du basket national. Alors son président, que nous avons eu à notre micro il y a cela un petit mois, nous a annoncé qu'il jouait le maintien, mais bon... c'est un petit cachotier, puisque là, on est au bout de la 8e journée, et nos gazelles étaient premières ex aequo avec Limoges, les grandes favorites à l'accession à National 1, le plus haut échelon du basket féminin. Donc, ce samedi, au Parc Andou de Carmont, c'était, on va dire, le match de gala, un peu comme au stade municipal avec la réception de Saint-Jean de Luz, un choc entre les secondes et les premières. On va dire que le président Bezin a mis les petits plats dans les grands. Et bien, nos Carmousines, elles ont été loin de se démonter, puisqu'elles se sont inclinées que 54 à 52 au bout du suspense. Elles conservent leur seconde place et ont poser des jalons pour le futur en montrant que malgré qu'elles soient des promues, il faudra compter avec elles tout au long de la saison pour faire dire la course en tête. Un grand bravo encore à nos gazelles qui font honneur au basket Tarnin. Allez, sur ce, avec cette touche basketball, ce Maxport touche à sa fin et sera bien sûr réécoutable en podcast sur les réseaux sociaux et sur les ondes de Radio Albigès 95.4 104.2. Merci à Will pour la technique, mais aussi à Arnaud Schmitt, Didier Rovellat et Vincent Clément pour m'avoir accompagné lors de notre direct au stade municipal samedi pour cette belle victoire du SCA. On se retrouve vendredi à 17h pour une spéciale derby du Tarn, Albi Lavor, et je vous dis à Desias. We got one eye on the future and the other on our money, and all our feeling goes dead when we switch on that channel. So perfect with the terrible flannel. Try to switch up my head, use my soul instead, so I'll get ahead of these things I said. Si è l'utrezze di novembre per stare away la Sambres.
Le 13 novembre 1999, en début de soirée, le pays mazamétain fut noyé en quelques heures sous des trombes d'eau. Il tomba une hauteur d'eau de 255 mm au mètre carré sur la vallée du Toré. La rivière monta au-dessus du niveau de la crue de 1930. À la Bastide de Rouéroux, une coulée de boue emporta une maison, entraînant la mort d'une mère et ses trois enfants. À Castres, la Durenque atteignit la même hauteur qu'en 1930. Plusieurs entreprises et de nombreuses maisons furent noyées. Dans le sud du département, 23 communes furent privées d'électricité. À Albi, le débit du Tarn était de 1700 m3 à la seconde, alors que son débit moyen est de 160 m3 à la seconde. À Lézignan, dans l'Aude, 500 litres d'eau au mètre carré tombèrent en 24 heures. Ce 19 novembre 1999, dans le Tarn, l'Aude et les Pyrénées-Orientales, 19 personnes avaient perdu la vie au cours de cet orage cévenol.
Un copero se disio, agazzo sambres al levan, auras lutens a Nadal et al sud de l'an.
Regarde Saint-Brice au levant, tu auras le temps à Noël et au jour de l'an.
Agazzo sambres al levan, auras lutens a Nadal et al sud de l'an.
Ensuite, votre agenda sur Radio Albigès
avec le Tarn Info Citoyen.
Du chant, de la musique, du théâtre, de la danse, les jeunes de la MJC de Gaillac et de Groyer peuvent vous montrer ça en un spectacle magnifique. Inspiré d'un conte chinois, cet opéra fantastique vous fera vivre pendant une heure et demie dans un autre monde. Nommé Mutinerie, ce conte musical ne vous laissera pas de marbre. Alors n'hésitez pas à venir découvrir ce spectacle le mardi 13 novembre au Forum de Groyer à 20h30. Le tarif sera de 5€ à part pour les demandeurs d'emploi RSA et étudiants, où le tarif est réduit à 3€. Et bien sûr, l'entrée est gratuite pour les moins de 12 ans. C'est un projet porté par la communauté d'agglomération Gaillac-Groyer.
Du 11 au 18 novembre, le comité Renaudier, pas celui de la ferme mais celui de la maison de quartier, vous propose une exposition ouverte de 14h à 18h intitulée « La Renaudier dans un tableau ». Ça se passe donc à la maison de quartier de la Renaudier, avenue de l'Europe à Albi, et vous êtes invité au vernissage ce dimanche 11 novembre à 17h. Plus d'infos sur le site www.comité-renaudier.asso.fr. Le dimanche 18 novembre prochain à 14h30, à l'église Sainte-Barbe de Cagnac-les-Mines, vous êtes conviés aux rencontres Chorale en campagne, Choralos pel campestre, avec quatre chorales, la chorale du foyer rural de Ken Fonsegrive, au plaisir de chanter d'Albi, la Croche-Cœur de Saint-Juéry et le Cœur des Hommes, l'Ouscansun Aires d'Albi. L'entrée est gratuite et la participation libre. Renseignements auprès du foyer rural de Cagnac, 06 19 93 45 23, 06 19 93 45 23. Ce mardi 13 novembre à Carmo, à 20h, c'est le Café Citoyen autour du thème « C'est quoi être normal dans notre société ?». Ça se passe à la Maison de la Citoyenneté, 26 avenue Boulogne-Torcatis, à Carmo, ce mardi 13 novembre. La visite guidée de la cité épiscopale du quartier des Cordeliers du Grand Théâtre et une réception à l'hôtel de ville sont au programme de la traditionnelle cérémonie d'accueil par la mairie et les élus de la ville d'Albi, des nouveaux albigeois. C'est ce mercredi 14 novembre et au programme à partir de 17h30, rendez-vous devant l'office du tourisme. 17h40, visite de la cité épiscopale, jardin du palais de la Berbie, pont vieux, vieille Albi, cloître Saint-Salvi, etc. 18h40, visite du quartier des Cordeliers et du Grand Théâtre. À partir de 19h30, réception en salle des états albigeois par Madame la maire et le conseil municipal. Pour les enfants de 3 à 11 ans, un service d'accueil sur inscription auprès du service communication de la ville d'Albi est mis à disposition des familles de salle Jean Jaurès de 19h30 à 21h. L'association Accueil des villes françaises du Grand Albigeois présentera durant cette soirée ses nombreuses activités. C'est donc ce mercredi 14 novembre. Ce mardi 13 novembre, dès 19h, vous êtes invité à la prochaine et dernière soirée mardi causerie du Fab Lab d'Albi de l'année 2018. Ouverte à toutes et tous, habitués comme nouveaux ou nouvelles, cette soirée pour échanger autour d'un verre des activités de l'association. Et au programme de ce mardi 13 novembre, grande discussion sur l'avenir du Fab Lab, les actus d'Albi Lab, focus sur les projets domotiques et Ripper Café, visite du Fab Lab pour les petits nouveaux, apéritif dînatoire où chacun peut amener quelque chose. C'est donc ce mardi 13 novembre à partir de 19h à Albi Lab Inoprod, 8 avenue Pierre-Gilles de Gênes à Albi.
C'était l'agenda de Radio Albi Jazz.